Rendez-vous avec vous, un temps d'antenne animé par Cathy Vanel, qui aime se balader et vous rencontrer.
Le plus jeune des cochons décida de construire sa maison en paille. Il se disait que c'était le moyen le plus facile et le plus rapide de construire une maison et que ça lui laisserait tout le temps de jouer. Le petit cochon construisit sa maison en une seule journée. Il dit alors à ses frères
« Hé les gars, j'ai déjà terminé, moi, regardez !»
L'aîné jeta un œil à la maison.
« Ouais, mais ta maison n'a pas l'air solide du tout. Comment elle te protégera du méchant loup ?»
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Et oui, voilà une question cruciale que je ne manquerai pas de poser à mon invité à la fin de cette émission. Et mon invité aujourd'hui, c'est Jean-Louis Gaillet. Bonjour Jean-Louis.
Bonjour Cathy.
Alors, vous êtes retraité et avec votre épouse, vous habitez Moncey. C'est à une quinzaine de kilomètres de Bourg,
c'est un peu 15 moins. Kilomètres de Bourg, oui. C'est-à-dire qu'en vélo, on met une demi-heure pour venir.
Alors, apparemment, vous n'avez pas peur du grand méchant loup, puisque vous avez récemment construit une extension de votre maison en bottes de paille. Ça n'était pas pour une question de rapidité, comme le plus jeune des trois petits cochons, mais à cause, ou plutôt grâce, à votre fille Maïté.
Alors, c'est toute une histoire. Vous voulez que je vous raconte ?
Oui.
Eh bien, Maïté, que beaucoup connaissent ici à Bourg-en-Bresse, est architecte de profession et elle s'est spécialisée dans les maisons autonomes, les maisons à énergie passive. Elle a fait sa formation en Allemagne. Et un jour, elle nous a proposé, elle nous a dit, les parents, est-ce que vous n'auriez pas envie qu'on fasse une sorte de chantier participatif qui soit une sorte de maison expérimentale ? Et tout de suite, l'idée nous a plu.
Donc, elle a réalisé les plans pour vous ?
Voilà.
Quelle est la partie de la maison qui se trouve en bottes de paille ?
Toute la maison est isolée aujourd'hui en bottes de paille. C'est-à-dire que c'est une maison existante et elle a effectivement entouré, on va dire, par l'extérieur, avec de la paille, avec des bottes. Donc, de manière à avoir une maison passive, donc, qui n'ait besoin de très peu de chauffage et où il n'y a pas de déperdition.
Alors, à ce bâtiment, vous avez quand même construit une extension.
On en a profité pour agrandir, effectivement, voilà. Cette petite maison, oui.
D'accord. Donc, vous en avez fait quoi de ces 40 mètres carrés supplémentaires
Ça donne lieu à un grand salon où on peut accueillir beaucoup de monde et ça donne lieu à une chambre aussi.
Alors, quel intérêt y a-t-il à utiliser des bottes de paille, aussi bien pour l'isolation que pour la construction ?
Alors, c'est un projet beaucoup plus large que simplement des bottes de paille. La première dimension du projet, c'était un chantier participatif. Ça veut dire que pendant presque une année, on a eu une centaine de jeunes qui sont passés. Quand je dis jeunes, c'est que la moyenne d'âge était plutôt autour de 25-30 ans que notre âge. Et des gens qui venaient, alors ou pour quelques jours ou pour quelques semaines, avec un double projet. C'est-à-dire, ils apprenaient un métier, enfin le métier autour d'une maison écologique, et ça leur permettait, en travaillant et en apprenant, eux-mêmes, pour certains, de construire eux-mêmes aujourd'hui leur maison ailleurs.
Alors, votre fille, pour recruter de la main-d'œuvre, elle a créé un blog.
Voilà, elle a fait un blog où elle proposait son projet. Et très rapidement, nous avons reçu de toute la France des propositions de personnes qui se disaient disponibles, ou pour quelques jours, ou pour plus longtemps.
Et sans l'aide de bénévoles, vous n'auriez pas pu réaliser ce projet ?
Ça aurait été un autre projet, ça aurait été autre chose. On aurait bien pu, effectivement, embaucher des entreprises. Maintenant, il y en a qui fleurissent de partout. Mais là, ce qui était intéressant, c'est que... On recevait des jeunes qui nous disaient « Je ne sais pas travailler, je ne sais pas quoi faire de mes mains. » Beaucoup étaient étudiants. Et ils disaient « Mais je suis prêt à apprendre. » Et donc, ils mettaient les mains dans la pâte. Et donc, ils apprenaient en faisant.
Voilà, donc c'était la contrepartie. Vous vous êtes fait aider par des bénévoles. Vous leur avez appris en contrepartie le métier.
Oui. Alors, on ne peut pas dire que ce soit nous qui leur ayons appris parce qu'on avait embauché quand même deux professionnels. Qui étaient en permanence sur le chantier, c'était eux qui apprenaient. Voilà. Et la contrepartie, c'est qu'ils étaient nourris, logés, et donc ils sont repartis avec un savoir.
Donc le chantier participatif, c'est aussi un état d'esprit.
Bien sûr.
Puisqu'il y a le partage, il y a la convivialité.
Alors, un exemple, un jour de l'été, par exemple, nous avions le midi 22 repas. Donc il y avait 22 personnes sur le chantier. Ça veut dire que Eliane, mon épouse, préparait le repas, mais il y avait quand même une ou deux personnes qui, dans la matinée, devenaient disponibles pour aider. Une autre particularité, c'est que l'ensemble des gens qui étaient là, c'était pas une obligation, c'était pas une demande de départ, mais la grande partie, enfin, ils étaient tous végétariens, donc on vivait autour des produits de notre jardin. Voilà.
Vous avez donc engagé deux professionnels,
oui.
C'était un maître d'œuvre.
C'était un maître d'œuvre et un charpentier, voilà, donc des gens qui connaissaient bien le travail d'une maison passive et qui donc transmettaient volontiers leur savoir.
Je suppose que vous avez vous-même mis la main à la pâte, pour ne pas dire mis la main à la paille. Quelle est la phase de la construction que vous avez préférée ?
Alors, si on reprend les phases, la première phase, ça a d'abord consisté à trouver chez les marchands de pneus de Bourg-en-Bresse des pneus usagés, parce que les fondations, ce n'était pas on n'a pas coulé de la maçonnerie, c'était des pneus qu'on remplissait du gravier, qui ont donc fait une ceinture, sur laquelle on a pu élaborer une construction en bois, donc une ossature en bois, et ensuite on est allé faire la paille donc, chez un voisin, et on a rempli cette ossature de bois de 330 bottes de paille, voilà.
Alors, on va revenir peut-être un peu plus en détail sur les différentes étapes de la construction. Donc, les pneus, vous nous avez dit que vous les aviez récupérés chez des garagistes du coin. Donc, ces pneus, vous les avez remplis de gravier. Expliquez-nous un petit peu.
On les a alignés, on a fait une ceinture de pneus sur deux étages qu'on a ensuite rempli de gravier. Et c'est assez impressionnant d'imaginer 10 sauts de gravier qui sont devant un pneu et on vous dit il faut rentrer les 10 sauts de gravier dans le pneu. Une fois qu'on en a rentré un, on se dit bon, ils ne vont pas tous tenir. Et pourtant, on tassait et les 10 sauts arrivaient à rentrer. Alors je ne vous dis pas, après, le pneu il est intransportable, ça pèse une tonne.
Par contre, on peut imaginer que votre construction elle est devenue antisismique.
On pourrait imaginer, effectivement. Oui.
Alors, après les fondations, vous nous avez dit que vous aviez érigé c'est une double structure.
Une double structure, ossature bois, donc en du bois qu'on avait ramené du Jura, pas très loin de chez nous. Et donc, c'était très joli. Toute la phase bois était magnifique. C'était une sorte de construction de cathédrale.
Et la paille, donc, vous avez été la chercher beaucoup plus près.
Alors, la paille, on l'a faite nous-mêmes, c'est-à-dire que l'équipe avait prévenu donc, un voisin qui faisait de la paille, qui nous a fait une paille bio, bien sûr, à des dimensions très particulières. Il a ressorti une vieille botteleuse de Mathusalem, et on a fait des bottes à une dimension très particulière. Et pareil, avant de mettre les bottes de paille, on les pesait, il fallait qu'il y ait un degré d'humidité qui soit très particulier.
Vous avez ensuite posé les baies vitrées.
Oh non, les baies vitrées, c'était bien après.
Ah,
après les bottes de paille, on a commencé à les enduire. Alors, les enduire avec de la terre. C'était de l'argile qu'on avait trouvée sur place.
Ça, c'était pour l'enduit intérieur.
Les enduits intérieurs, voilà, oui, parce qu'à l'extérieur, ce n'était pas des enduits. C'était un bois particulier contre l'humidité. Une anecdote, quand on était aux enduits intérieurs avec l'argile, on s'amusait comme des petits fous parce que bon, c'était en plein été, on était en slip de bain et imaginez au bout de 10 minutes, on était tous couverts d'argile, quoi. Il y en avait de partout.
Votre chantier s'est étalé sur une année ?
À peu près une année, oui.
Voilà. Vous avez terminé par un joli parquet en bois.
Voilà, on a mis du chêne, effectivement.
Vous avez installé un petit poêle.
Un poêle d'appoint, c'est plus pour l'ambiance, parce qu'on a pu vérifier l'hiver dernier que, en fin de compte, il y a une sorte d'isolation naturelle qui fait qu'on a très peu besoin de chauffer.
Tout a été réalisé dans les normes écologiques.
Ah, bien sûr, oui. Notre fille était très exigeante sur ce plan-là.
Vous avez eu des nouvelles des personnes bénévoles qui vous ont aidé sur le chantier ?
Alors, il y en a régulièrement qui repassent pour voir un petit peu ce que ça donne, et puis en même temps qui nous donnent des nouvelles de leur propre construction, là où ils sont.
Vous avez vous-même été aidé pour une construction ?
On a aidé, on aide encore sur une construction, oui, effectivement.
Qui est loin de
Bourg ? Qui n'est pas très loin, qui est à 25 km de Bourg, oui.
Bon, bah, écoutez, merci Jean-Louis Gaillet d'être venu au micro de Radio B pour nous parler de votre expérience de construction en bottes de paille.
Mais dites-moi Cathy, si je peux me permettre une question. Ce qui vous a tellement intéressé dans notre construction, c'est que vous-même, vous avez fait aussi, vous avez fait les plans de votre maison.
Oui, mais alors, ça n'est pas Jean-Louis Gaillet, l'objet de l'émission d'aujourd'hui. Je vous invite, chers auditeurs, à visiter le blog de Maïté. Vous y trouverez les réponses à toutes les questions que vous vous posez. Il vous suffit de taper sur votre moteur de recherche « Entre paille et belle étoile ». Pour finir, je n'oublie pas la question du troisième petit cochon. Je vous la redis. Oui, mais ta maison n'a pas l'air solide du tout. Comment elle te protégera du méchant loup ? Jean-Louis, une réponse rapide.
La réponse, il y a une bande dessinée qui s'appelle Les Trois Petits Cochons Nouveaux et où on raconte l'histoire totalement à l'inverse et où on se rend compte que la maison en parpaing ou la maison... Enfin, ce n'est pas des maisons qui tiennent le coup dans la durée, alors que la maison en paille, effectivement, quand elle est bien conçue, on y est bien, ça donne une sensation de douceur. Et je vous invite à aller voir cette bande dessinée.
Merci à tous et à bientôt.
Au revoir.
J'habite un champignon d'acier et de béton dressé au cœur de la cité. Du haut de mon balcon, j'aperçois l'horizon et je commence à voyager. Et toi, dis-moi comment tu vis, dans quel village, dans quel pays, abri de paille ou de béton, à quoi ressemble ta maison? Peau de chèvre cousue sur des branches tordues, elle est fragile ma maison. Du Mali au Niger, à travers le désert, elle suit les hommes quand ils s'en vont. Et toi dis-moi comment tu vis, dans quel village, dans quel pays, abri de paille ou de béton, à quoi ressemble ta maison? De Pologne en Espagne, tiré par un cheval, grand-père a traîné sa maison. Devant sa caravane, il disait les tziganes sont les enfants de l'horizon. Et toi, dis-moi comment tu vis, dans quel village, dans quel pays, abri de paille ou de béton, à quoi ressemble ta maison? Enfant des bidonvilles, du Chili, du Brésil, n'a pas connu d'autre maison qu'un abri de misère, fait de tôle et de pierre, trois murs en planche, l'autre en chiffon. Et toi, dis-moi comment tu vis, dans quel village, dans quel pays, abri de paille ou de béton, à quoi ressemble ta maison? Et toi, dis-moi comment tu vis, dans quel village, dans quel pays, abri de paille ou de béton, à quoi ressemble ta maison ?